Bonjour David, bonjour à tous. C'est un projet de taille. Le village senior Sérénia à Thouars pourrait ouvrir en 2029. Volonté affichée des promoteurs. La première édition de Ici nos savoir-faire lancée ce mercredi. L'opération permet une immersion dans le monde professionnel. En Nouvelle-Aquitaine, plus de 150 entreprises ouvrent leurs portes. Une nouvelle équipe dirigeante au CJD Sud de Sèvres. La transition s'est faite la semaine dernière lors de la soirée prestige autour de Fabien Galthié à Niort. C'est une tradition mexicaine, la Fiesta de los Muertos, ou la fête des morts, à découvrir sous forme d'un spectacle cet après-midi à Cerisay. Cholet Basket reçoit une équipe israélienne ce soir à la Meyrée. Meyrée taguée le week-end dernier, un dispositif particulier mis en place pour cette rencontre. Quant à la météo, le temps restera très perturbé cet après-midi avant qu'il ne se dégrade avec l'arrivée de la tempête Benjamin. Le village senior Sérénia à Thouars pourrait donc ouvrir en 2029. C'est l'année prévue par ses promoteurs pour la mise en service du village retraite de 90 pavillons individuels à Vrines, non loin des bassins du Thouet. La ville de Thouars a déjà réservé le terrain de 2,5 hectares au prix de 220 000 euros jusqu'au dépôt du permis de construire l'an prochain. À la manœuvre du projet, de ce projet immobilier de 13 millions d'euros, Marc de Saint-Romand, à la tête de la société Sérénia à Orléans. Public visé, les plus de 60 ans qui représenteront 40% de la population thouarçaise au moment de la livraison du programme. Le patron de Sérénia au micro-colline de notre correspondant thouar, c'est Dominique Hérault.
C'est notre volonté de pouvoir faire cohabiter des seniors autonomes et des personnes âgées dépendantes qui devraient normalement aller à l'EHPAD et pour qui nous proposons une alternative en fait. Finir ses jours dans une maison individuelle avec évidemment la présence permanente de toute une équipe d'auxiliaires de vie et de santé qui pourront s'occuper des personnes les plus nécessiteuses de jour comme de nuit, 7 jours sur 7 évidemment. Il y aura aussi un clubhouse de 330 mètres carrés avec des tas d'espaces différents pour permettre des moments de convivialité, des moments de sport, de détente, etc. Dans nos villages, en fait, il y a une partie du personnel qui est là pour apporter des services très très simples de base qui sont inclus dans leur charge. Donc, il s'agit d'un animateur, il s'agit d'un concierge, 6 jours sur 7, et il s'agit aussi d'un technicien qui va s'occuper d'entretenir les jardins, le parc, et puis de résoudre des problèmes techniques. Et ensuite, il y a tout le personnel d'aide à la personne, présent 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, et entre une vingtaine et une trentaine d'auxiliaires de vie et de santé.
Les maisonnettes de 2 ou 3 pièces de plein pied seront proposées à la vente entre 130 000 et 200 000 euros hors taxes pour les investisseurs locatifs ou 20% de plus pour les acheteurs occupants. Pour les locataires, seuls ou en couple, le loyer, les loyers, eux, sont évalués à 750 euros par mois, charges incluses. Marc de Saint-Romand.
Faire cohabiter du troisième et du quatrième âge, c'est ça notre credo. Et puis notre particularité aussi, c'est d'être financièrement très très accessible en fait. Mais la grande particularité, c'est de pouvoir apporter un service sur mesure. Parce que c'est avec une équipe qui est présente H24. Si la personne âgée a juste besoin de quelqu'un 10 minutes le matin à l'heure de prendre sa douche, et si elle veut juste une demi-heure dans la journée pour un peu de ménage, et 5 minutes le soir pour vérifier que j'ai bien pris mes pilules, ça c'est tout à fait possible. Alors ce qui est inenvisageable, si vous êtes resté chez vous et que vous faites appel à la personne, c'est du sur-mesure. On reste chez soi, mais on est accompagné beaucoup mieux que si on était en EHPAD. Et encore une vie à domicile et à la fois communautaire, et les gens choisissent la part de vie à domicile et quels sont encore les actes de la vie quotidienne qu'ils veulent encore réaliser par eux-mêmes.
Actuellement, 5 de ces villages à l'américaine, protégés mais ouverts sur la ville, sont en service en Val-de-Loire. Par principe, le village ne sera lancé concrètement que lorsque la moitié des maisons seront vendues sur plan. Le projet Sérénia devrait donc séduire avant de se concrétiser. Reportage signé Dominique Hérault. La première édition de l'événement Ici nos savoir-faire est lancée ce mercredi et ce jusqu'au 28 octobre. Ici nos savoir-faire, un événement copiloté par la région et le comité régional du tourisme de Nouvelle-Aquitaine. Toutes les entreprises disposant d'un processus de fabrication, ateliers artisanaux, sites industriels, manufactures, entreprises agroalimentaires, ont été invités à s'associer à cette semaine de découverte et de transmission. 150 entreprises y participent, parmi elles en Deux-Sèvres, la laiterie de Pampli, l'atelier de Simaé à Puardy, l'atelier Amano à Usseau, les fours à chaud Labasse à Nanteuil, la chocolaterie Catalin, la brosserie Brenet, l'entreprise Eno à Niort, l'atelier qui dure à Courlay, Bodinature et l'atelier Delcy à Nueil-les-Aubiers. L'objectif et de faire découvrir les coulisses des entreprises et valoriser les métiers, les techniques et savoir-faire. Généralement, le tourisme d'entreprise prend de l'ampleur. Christelle Chassagne, conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine et présidente du comité régional du tourisme.
Quand on parle de savoir-faire, la région regorge de pépites. Évidemment, cette ouverture, elle part de la volonté des entreprises d'ouvrir leurs portes pour parler de leur savoir-faire. C'est parfois aussi dans la volonté de transmettre des traditions ancestrales. Mais ça devient aussi, je dirais, presque une stratégie marketing, de communication aussi. C'est pas que des ventes sur le coup, c'est aussi faire entrer connaissance, la prise en compte des savoir-faire comme dans une volonté de transmission, et donc ça fait partie aussi de la stratégie marketing de l'entreprise.
Les 153 entreprises qui participent à cette première édition sont référencées sur le site dédié à l'événement ici-nos-savoir-faire.fr. Vous y trouverez tous les renseignements pratiques. Une nouvelle équipe dirigeante pour le CJD Sud de Sèvres. La semaine dernière, le Centre des jeunes dirigeants recevait Fabien Galthié pour une soirée prestige au Moulin du Rocagnor. Le sélectionneur de l'équipe de France a échangé avec les adhérents, une quarantaine sur le Niortais, qui se retrouvent ponctuellement pour un partage d'expériences utile pour des dirigeants qui se sentent parfois seuls face à leurs responsabilités. La soirée portée sur le thème de l'engagement, un thème cher au mouvement, comme le souligne Guillaume Simonet au micro-colline de Grégory Diguet.
Pourquoi l'engagement ? Parce que ça fait partie des valeurs du CJD. Et au-delà des valeurs, c'est aussi, en ce moment, on le voit bien, que ce soit dans le monde associatif, que ce soit dans beaucoup de secteurs, même au niveau des entreprises, même au niveau de tout ça, l'engagement, il est difficile à retrouver. On a connu le Covid il n'y a pas très longtemps, où en fait, il a fallu reconstruire des choses, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans les assos, que ce soit... L'engagement, il est à tous les niveaux. Et du coup, le rapprocher au sport, le rapprocher aux gestes du rugby, nous paraissait vachement intéressant. Et quand tu as dit tout ça, tu penses à Galthié en premier.
Lors de cette soirée prestige, Axel Leroux et Jérôme Farnier ont passé le relais à trois nouveaux coprésidents, Yasmine Papeau, François Lechat et Guillaume Simonet, lequel définit les ambitions pour les deux ans de mandat.
Alors sur les deux ans qui arrivent, c'est de continuer à construire dans un monde économique qui est compliqué en ce moment. On a tendance à se recentrer à nouveau sur l'économie, la rentabilité, essayer de faire que ton chiffre d'affaires aille bien, et donc du coup, tu peux vite perdre en fait le sens même des valeurs humaines au sein d'entreprise, et revenir à trop de finances. Et le revenir à trop de finances, c'est évidemment ce qu'on veut pas au sein du CJD. Et donc dans cet engagement-là et dans cette présidence-là, de revenir un peu, même en période de crise, de dire à un moment donné, reconcentrons-nous sur le sens, sur l'engagement, sur ce que les choses doivent être au niveau de l'économie. On est dans un lieu culturel aujourd'hui, au niveau de l'économie, au niveau de la culture, au niveau du bien-être, au niveau de la société. Tout ça est très important et c'est vraiment ce que j'ai envie de pousser dans ces deux ans de mandat à ce niveau-là.
Guillaume Simonet, co-président du Centre des jeunes dirigeants Sud de Sèvres. Il co-dirige avec Yasmine Papeau et François Lechat. En ce mois d'octobre, la députée Delphine Bateau alerte sur les délais d'accès à la mammographie de dépistage excessivement et anormalement longs en Deux-Sèvres. J'ai interpellé la nouvelle ministre de la Santé sur la nécessité de déployer des dispositifs mobiles de radiologie permettant une réelle politique de dépistage en direction des femmes de territoires ruraux. Au-delà du dépistage, il faut aussi et enfin agir sur les causes, souligne la députée écologiste. Dans le même registre, le député Bastien Marchi va également interpeller la ministre au travers d'une question écrite déposée le 13 octobre dernier à l'Assemblée nationale. Il demande quelles mesures le gouvernement entend prendre pour réduire les délais d'attente, pouvant atteindre 18 mois dans notre département, renforcer l'offre de dépistage et assurer une réelle équité d'accès à la prévention sur l'ensemble du territoire. Opposé à un éventuel projet de parc éolien à proximité du hameau de Coudray à Courlay, Bocage Vent Debout a fait circuler une pétition qui a recueilli à ce jour près de 270 signatures, selon l'association, qui demande aux élus de ne pas modifier le PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal, et de laisser ce secteur en zone agricole. Le maire de Courlay nous a indiqué hier après-midi qu'il n'avait pas l'intention de modifier le PLUI. André Guirmic a précisé qu'à ce jour, aucun projet éolien n'avait été validé par le conseil municipal. Culture, la Fiesta de los Muertos, célébrée à Cerizé. Nul besoin d'un grand niveau en espagnol pour comprendre la traduction de cette accroche. La fête des morts, qui dans la culture mexicaine n'est pas célébrée comme en France. Au Mexique, on célèbre en effet les morts davantage qu'on ne les pleure. Explication avec Aurel et Nouria de la compagnie artistique de la Mescale.
On a eu envie, c'est un grand mot, de l'importer, mais de la partager avec le plus grand nombre, dans un mois souvent d'octobre, novembre, un peu pluvieux. On aime bien mettre de la couleur.
Cette fiesta au Mexique, c'est une fiesta très familière, avec beaucoup de couleurs, beaucoup de musique, beaucoup de joie. En fait, c'est une fiesta pour vraiment fêter à des personnes qu'ils ne sont plus là, mais qu'on aimait bien.
Et puis, c'est surtout au fait qu'au Mexique, il y a à travers cette fête-là, il y a une acceptation de la mort. En fait, on naît, on vit et on meurt. Et en fait, au Mexique, quand on voit les enfants qui fabriquent des petites têtes de mort, qui peignent des têtes de mort, qui font des pains de Los Muertos et tout ça, et bien là, on a vu, notamment au centre social où on est là, que ça fonctionne. Au début, ça fait un peu bizarre de parler de squelettes. Et puis, en fin de compte, quand ça rentre un peu dans le quotidien des gens, en fin de compte, c'est tout naturel, surtout chez les enfants.
Nouria et Aurel sont intervenus au CSC, dans les écoles, mais aussi à la maison de retraite auprès des anciens. Cet après-midi, leur compagnie Dona Mescal présentera son spectacle Parco à la Griotte de Cerisay.
On nous a donné un livre à la naissance de notre première fille qui s'appelle Parco et qui racontait un peu la même histoire que celle qu'on racontait dans Nekamagouté, celle de Mr. Bones. Et ça nous a fait rigoler qu'il y ait une histoire qui ressemblait déjà à la nôtre qu'on avait faite. Et on a décidé de mettre ce livre, de le mettre en scène. Et puis donc on est très très musicaux ou musicales, nous, mais il y a quand même des peintures sur scène, des petits squelettes qui jouent avec nous, il y a une mise en scène, voilà.
Le spectacle Parco à la Griotte de Cerisay ce mercredi à 15h, un spectacle musical qui s'adresse à toute la famille à partir de 5 ans. Tarif 3 euros par enfant, gratuit pour un adulte accompagnateur, 3 euros pour les autres adultes. L'actualité de Cholet Basket, maintenant de la Meilleraie au Madison Square Garden, c'est la trajectoire empruntée par Mohamed Diawara. Les Knicks de New York ont en effet annoncé la signature du joueur qui portait les couleurs de CB la saison dernière. Une signature qui devrait rapporter une somme proche de 100 000 euros à Cholet, de même qu'à Paris où il était passé pro. Une bonne nouvelle pour Cholet Basket qui s'apprête à recevoir Olon ce soir en BCL, un match à risque. Dans le contexte qui entoure chaque déplacement d'une délégation israélienne, les spectateurs devront venir un peu plus tôt car il n'y aura qu'une seule porte d'entrée et que les contrôles seront renforcés. Le week-end dernier, le tag Cholet Complices a été inscrit sur les portes de la Meilleraie et ce mercredi, une manifestation reste toujours possible. Le staff n'a pas encore abordé le sujet avec les joueurs, mais le fera sans doute ce mercredi, indiqué Fabrice Lefrançois, qui, à titre personnel, a livré son sentiment hier midi en conférence de presse.
Moi, je suis un humaniste. Je suis pour la paix dans le monde, de façon très, peut-être un peu bisounours, mais voilà. Je comprends qu'une population comme la Palestine qui soit offensée, ouais, moi, ça me rend triste, en fait, tous les jours quand je vois ça. Au même titre que quand d'autres peuples se retrouvent offensés, quand tout le monde subit des attaques. Donc voilà, et je comprends à un moment donné que l'immobilisme, par moment, crée de la frustration. Maintenant, je suis pas sûr que ça soit dans le cadre d'un événement sportif que ça se manifeste. Et sur la porte, il y a marqué complice, mais complice de quoi? En fait, si Cholet Basket sort de la BCL, de une, on rend service peut-être au club israélien parce que ça leur permet de se qualifier peut-être plus facilement. De deux, nous, ça nous met en défaut sur quelque chose qui n'est pas de notre ressort et pour lequel toute la saison dernière, on a œuvré pour être dans cette compétition-là. Et en plus, quand on regarde, on analyse l'équipe d'Olon, les trois quarts, ce sont des joueurs américains, coachés par un américain. Bon, voilà, ça s'arrête là. Paris Basket en Euroleague a reçu un club israélien la semaine dernière, ça s'est très bien passé. Et ça se passera très bien mercredi. En tout cas, c'est ce que j'espère.
Le coach de Cholet Basket, Fabrice Lefrançois, au micro-colline de Vincent Nori. Vincent qui commentera le match ce soir face aux Israéliens de Hon avec Jérémy Maginot. Coup d'envoi à 20h. Toujours en basket, la Bressuraise Jade Gaillard, sans club depuis le dépôt de bilan d'Alençon en Ligue 2 début septembre, vient de signer à Lamboissière, un club du Maine-et-Loire qui évolue en National 1.